RCF.
Alors bonjour amis auditeurs, auditrices de RCF. Bienvenue à notre émission Le Berry se raconte avec Agora Défense pour l'histoire militaire du Berry et du département du Cher. Notre invité aujourd'hui, ce n'est pas une inconnue. En effet, nous allons effectuer la quatrième émission sur Torteron et son passé d'industrie métallurgique. Bonjour Madame Laurent.
Bonjour Monsieur.
Alors vous êtes professeur honoraire de sciences physiques au lycée Pierre-Émile Martin et vous êtes une spécialiste avertie de la métallurgie. Et j'ose l'affirmer et le confirmer. Merci aussi encore de prendre du temps à nous consacrer à ce village de Torteron et sa région. Alors, notre dernière émission va consister au déclin de Torteron et avec toutes les conséquences que ça va avoir sociales, humaines. Et aussi, nous allons parler un petit peu de cette association qui essaye et qui le fait bien de redonner vie à tout ce paysage et à toute cette région. Alors, très rapidement, Madame Laurent, notre dernière émission, vous avez abordé les véritables raisons. La disparition rapide de l'industrie à Torteron, vous avez dit le minerai de fer qui s'épuise, une concurrence avec un marché en expansion, et nous en étions à la question de la gestion. Alors est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette gestion?
Eh bien, oui, il y avait des dissensions, des dissentiments de gestion, comme disait Eugène Jolin. Entre Montluçon et les mines de Commentry, et puis la partie métallurgique de Torteron sous la tutelle de Fonchambault, il y avait des oppositions. Ce qui, évidemment, évitait de renouveler le matériel et l'ensemble en pâtissait. Justement, pour stimuler les investissements industriels, la France met fin à un certain protectionnisme. Elle veut abaisser les taxes d'importation pour les fers, les aciers, les tôles et les fontes destinées aux constructions navales, aux machines de l'industrie et les constructions mécaniques. Des traités de libre-échange sont signés avec le gouvernement en 1860 avec la Grande-Bretagne, puis avec la plupart des pays européens. C'est la disparition des petites forges et la modernisation obligée des groupes assez puissants pour le faire. La société anonyme Commentry Fourchambault est en mutation. En effet, en 1874, la fusion de la société Bois-Grandbourg avec les charbonnages de l'Allier va devenir société anonyme Commentry Fourchambault. Cela va intégrer progressivement d'autres établissements, dont les fonderies de Marquise et de Pont-à-Mousson, qui étaient rivales de Torteron. La société sera cotée en bourse avec l'intégration de la société Descazeville. Certains se souviennent encore de cette société Commentry Fourchambault Descazeville. Torteron ne s'en relève pas. La fermeture programmée en 1878 devient effective. Les portes sont fermées le 6 mai 1882.
Alors, il y a une personne dont nous n'avons pas parlé et pourtant qui nous a beaucoup inspiré, c'est Eugène Jolan. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur ce Eugène Jolan?
Eh bien, Eugène Jolan est un jeune ingénieur qui vient travailler à Fourchambault, à Torteron, et qui retourne ensuite finir sa carrière comme directeur de Fourchambault. Il va, pendant sa retraite, écrire un livre que son fils fera paraître quelques années plus tard. Il faut que les tensions et les amours propres personnels se calment. Ce livre vient d'être réédité par l'association Au bois de terres et de feu, qui a été créée il y a juste 20 ans. Oui. Ce livre est une merveille de renseignements. Elle nous a guidés tout au long de ces auditions.
Bien sûr.
Et nous y trouvons une foule de détails. Très sérieusement, relaté, avec des schémas, des plans qui nous sont très précieux. De plus, nous pouvons avoir recours aux archives départementales, bien sûr, et aussi aux archives du monde du travail, qui ont été conservées à Roubaix et que certains de l'association, je citerai Geneviève Cagnard et Bernard Declercq, vont consulter régulièrement. Donc, nous avons une somme de connaissances qui va évidemment aboutir à rédiger, à compléter ce que Jolan nous a appris. Et la dernière réédition du livre, qui est toujours disponible auprès de l'association Bois de Terre et de Feu, est là pour éclairer tous les curieux.
Alors, Madame Laurent, moi je m'intéresse un petit peu aux personnes. Que deviennent les ouvriers et tous ces nombreux bâtiments témoins de ce long passé de labeur dans cette région de Torteron? Alors,
eh bien, les ouvriers ont été dispersés à la fermeture de l'usine, sans état d'âme. Ceux qui disposent d'une bonne qualification trouvent embauche dans une autre fonderie du groupe ou se reconvertissent chez un concurrent, par exemple à Montluçon, dans le groupe rival Châtillon-Commentry. Certains retournent chez un parent ou un ami pour travailler la terre berrichonne, bientôt atteinte par la crise du phylloxéra, ou s'établissent s'ils ont un petit pécule. Chacun se débrouille comme il peut, parfois loin du Berry. Je pense que des études de population pourraient être peut-être en replacer en Lorraine. Lorsque, grâce à de nouveaux procédés, le minerai normand ou lorrain produit de l'acier, surtout lorsque l'invention Thomas Gilchrist en 1876 permet d'exploiter la minette lorraine jusqu'alors dédaignée.
Je vous interromps. Qu'est-ce que la minette lorraine?
Eh bien, la minette lorraine doit son nom à une teneur en fer pas très élevée, moins forte qu'en Berry. Et surtout, elle contient du phosphore. Donc, c'est de la petite mine qui est laissée un peu de côté. Or, le gisement est considérable. Voilà. Pour l'exploiter, il faut arriver à se débarrasser du phosphore qui rend la fonte, qui donne de très mauvaises propriétés à la fonte. Et donc, l'invention de Thomas Gilchrist est bienvenue. À côté des cornues Besmer et des fours Martin, on peut avoir le convertisseur Thomas Gilchrist qui va déphosphorer la fonte. Et même cette fonte va servir d'engrais. Ces scories, les scories que l'on élimine vont servir d'engrais en agriculture. J'ai cité les fours Martin.
Oui.
En effet.
Alors. Parlez-moi de la famille Martin.
Ah oui, la famille
ça
Martin.
Ça vous aimez bien.
Oui, parce que, évidemment, il faut citer un petit-fils de Georges Dufaux, fils d'Émile Martin qui travaillait notamment à Fourchambault, à Alès et à Decazeville. Pierre-Émile Martin est né à Bourges en 1824 et est mort à Fourchambault en 1915. Donc, petit-fils de Georges Dufaux. Et c'est l'inventeur du four Martin qui permettait d'obtenir de grandes quantités d'acier de qualité très variable, adaptable aux besoins, mais qui était évidemment très gourmand en énergie.
Alors, très bien, que deviennent ces bâtiments, les bâtiments de l'usine de Torteron, que l'on peut encore, au moins, voir les ruines, quelques ruines? Que deviennent-ils? Parce que quand même, c'est très important.
Ah oui.
Alors,
les bâtiments de l'usine de Torteron sont vidés de leurs machines d'abord, qui partent à Montluçon en 1882. Mais à Montluçon, elles ne travailleront que quelques années, car la rentabilité minière des mines de l'Allier serait, elle, décevante. Par contre, les bâtiments sont mis en vente, ainsi que de nombreuses habitations. De ces habitations, il faut dire qu'un bon nombre relevait de la politique sociale de l'ancienne direction des fondateurs.
Alors, en fait, on a fait construire des maisons. Alors,
le paysage est parsemé encore de maisons, d'habitations qui ont été créées pour les mineurs de fer dans des lieux distants de quelques kilomètres de l'usine.
D'accord.
Les bûcherons qui étaient recrutés pour les travaux forestiers, ont aussi pu loger dans ces bâtiments.
Très bien.
Alors, on peut citer de nombreux lieux. Alors, il y a par exemple, tout près à Bentoucouture, les casernes. Il y a à Jouer-sur-le-Bois, la Bouchardérie. Il y a Saint-Hilaire de Gondilly. On avait les 16 maisons qui sont aujourd'hui complètement ruinées, mais il reste encore quelques maisons du lotissement de Saint-Louis. près du gisement de Sargues.
Donc il y a encore des vestiges.
Ah, il y a des vestiges très intéressants. Et il y a et aussi, j'oublie, celui du Champ de la Croix en éventail, qui respectait l'intimité des différents habitants.
Très bien. Alors, je vous interromps parce que, après 2 ans, vous me dites, 2 ans, l'abandon des lieux, il y a un acheteur qui s'appelle Gustave Ravenaz qui signe une clause qui interdit la reprise en ces lieux d'une quelconque activité métallurgique.
Ah oui.
Alors.
Ah oui. Alors, lorsque le lieu industriel était racheté, il n'était pas rare, et c'est encore pratiqué, qu'une clause interdise la reprise d'une activité similaire sur le même lieu.
Alors,
des
maisons sont vendues. Vous dites que l'abbé Tamisier puis l'abbé Bourinet aident de leur mieux la population jusqu'au conflit de 1914.
Oui, ces deux abbés, surtout l'abbé Tamisier, ont fait ce qu'ils pouvaient pour empêcher la fermeture de l'usine et ont aidé la population après la fermeture. Au point que le portrait de l'abbé Tamisier se retrouve sur les vitraux de l'église.
Ah, très bien, oui, oui.
Église qui avait été construite sous le Second Empire.
Oui, très bien. Alors, la suite de l'activité.
Oui, l'association Bois de Terres et de Feu va d'ailleurs éditer quelques feuillets sur cette église très prochainement.
Alors, ensuite s'installe donc une scierie à partir de 1899 et... ensuite, une usine à chaux.
Oui, à partir de 1899, une usine à chaux prospère,
oui,
grâce aux facilités qu'offre le canal et quelques halles spacieuses réoccupées. La chaux provient du bassin. C'est la chaux du bassin de Bèf, très réputée, qui va être exploitée depuis la chapelle Molinard jusqu'à la Guerche.
Très bien.
Et tout le long du canal, il y aura jusqu'à 7 fours dans l'enclos de l'usine de Torteron et 3 autres usines à chaux sur la commune de Torteron, qui en 1875 a changé son nom de Patinge en celui de Torteron. La crise de la construction fait disparaître ses activités en 1925 et les broussailles envahissent alors le site.
Je vous remercie beaucoup, Madame Laurent, pour toutes ces explications passionnantes sur ce site de Torteron. Nous savons aussi que c'est l'association Au Bois Terre de Feu remet de la vie dans ce lieu et continue avec passion à vouloir faire découvrir ce patrimoine, témoin d'une époque. Merci à vous, amis auditeurs, auditrices, pour votre fidélité à cette émission Le Berry se raconte, avec Agora Défense et l'histoire militaire du Berry et du département du Cher. Parfait.